retour en Europe, on part en Suisse, à Genève, plus précisément à l'entrée du siège de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Des militants anti-nucléaires y font le pied de grue depuis plusieurs mois. Ils se font appeler la vigie d'Hippocrate et ils sont tenaces. Reportage Baptiste Dupin.
Je m'appelle Paul Rouleau, j'ai 63 ans, je suis agriculteur à la retraite. Sur le panneau que je porte actuellement, il est écrit « Dissimulation et non-assistance égale crime ». Voilà, je suis devant le bâtiment de l'OMS à Genève. On reproche, si je peux utiliser cette expression, à l'OMS de ne pas faire son travail. Le fait que l'OMS cache les conséquences sanitaires de la radioactivité, de la contamination radioactive, notamment et particulièrement sur Tchernobyl, quoi.
Vous faites ça depuis longtemps, la vigie ?
Alors, la vigie, on l'a commencé le 26 avril 2007. On était deux personnes ici. C'est moi qui ai lancé l'idée après avoir découvert, en lisant le livre de Vladimir Tcherkov, les agissements de l'OMS.
Je suis Vladimir Tcherkov, journaliste à la retraite de la télévision suisse-italienne. Et connaissant le russe, on m'a envoyé pour la première fois en 1990 dans les territoires contaminés par Tchernobyl pour faire un peu l'état des lieux. L'énorme quantité d'enregistrements et de rencontres, de témoignages recueillis et de documentation a été rassemblée. Je l'ai rassemblée dans un livre « Crime de Tchernobyl, le goulag nucléaire » que le militant agriculteur poète qui s'appelle Paul Rouleau, l'ayant lu, m'a engueulé dans un mail en disant que je le mettais dans un pétrin dont il ne savait pas comment sortir. Et il a décidé, dans un moment d'illumination, que la seule chose à faire, c'est de monter un piquet de contestation devant le siège de l'OMS à Genève.
Depuis, il y a plus de 300 personnes qui se sont succédées, du lundi au vendredi soir, donc aux jours et aux heures ouvrables de l'institution OMS. On commence à 8h le matin et on arrête à 18h le soir. Ça fait 4 ans et une semaine. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse de la neige.
Fidèles au poste, les militants de la vigie d'Hippocrate se relaient pour faire entendre leur message. Le regard clair, perçant, Paul Rouleau a la détermination de l'homme persuadé de défendre une cause juste. Il affirme, en s'appuyant sur les travaux de Vladimir Tcherkov, que l'OMS n'est pas indépendante. L'Organisation mondiale de la santé dépendrait selon lui directement d'une autre agence des Nations unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour tout ce qui concerne les dangers des radiations pour la santé. Leur thèse repose sur un accord conclu en 1959 entre l'OMS et l'AIEA. Il ne faut pas longtemps à la compagne de Paul Rouleau, Thérèse, pour en trouver une copie entre deux tracts et un thermos de thé dans la charrette qui leur sert d'étendard.
Chaque fois que l'une des parties, ça c'est dans l'article 1, coopération et consultation, chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans le domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord. Et puis alors il y a ça qui, à mon avis, aussi est restrictif. Voilà, sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé se tiennent mutuellement au courant de tous les projets et de tous les programmes de travail pouvant intéresser les deux parties.
Avec ça, l'OMS ne peut pas être indépendante, agir de manière indépendante, puisque à chaque fois qu'il y a une des deux parties qui fait quelque chose, elle doit consulter l'autre afin que ça se règle d'un commun accord.
Il y aurait donc, selon ces militants, une collusion entre l'OMS et l'AIEA, un conflit d'intérêts majeur entre leurs missions respectives. Vladimir Tcherkov.
Après les accidents du genre Tchernobyl ou Fukushima, il est clair que la contradiction, le conflit d'intérêts qu'il y a entre ces deux agences, à savoir l'une est promotrice des centrales nucléaires, l'autre est promotrice de la santé humaine, si l'OMS avait les moyens et la pleine indépendance et liberté de faire ce que sa constitution lui prescrit, ce serait la fin du nucléaire. Or, précisément, la vérité officielle, scientifique, entre guillemets, c'est qu'en tout et pour tout, aujourd'hui, on déclare scientifiquement que les morts à cause de Tchernobyl sont 50. 5 et 0. Il n'y a pas plus. C'est moins qu'un avion de, un avion de tourisme moyen.
On a fait le choix, nous, de ne pas aller forcément vers les gens, de ne pas haranguer la foule, parce qu'il y a des gens qui passent tous les jours, ça pourrait être fatigant depuis 4 ans. Donc on attend plutôt que les gens viennent à nous. Et puis à l'intérieur aussi, il y a des choses qui se passent. Je veux dire, les gens qui travaillent, ils ont une conscience. Et théoriquement, il y a un rendez-vous, peut-être que Paul vous en a parlé, qu'il y a un rendez-vous demain avec l'OMS. Madame Chan est descendue, enfin sa secrétaire, pour elle désire nous rencontrer.
Un premier pas pour la vigie d'Hippocrate. Margaret Chan, le directeur général de l'OMS, a reçu les militants pour la première fois depuis 4 ans lors de notre passage à Genève. Nous avons pu rencontrer le docteur Maria Neira, directrice du département santé publique et environnement, juste après leur rencontre.
On essaye par tous les moyens de les expliquer qu'il n'y a rien ni personne qui pourra empêcher l'OMS de faire notre travail, de protéger la santé des gens. Alors, ils font appel à un accord en 59, et c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont fait un accord des rapports de l'OMS avec la IAEA, de l'OMS avec l'UNICEF, de l'OMS avec l'UNESCO. Je veux dire, toutes ces organisations qui existaient déjà, on a exactement le même accord. C'est un accord, soi-disant, de courtoisie, de comment on va interagir l'un avec l'autre. Mais d'aucune façon, cet accord peut être une espèce de lien ou de servitude avec la IAEA, parce qu'on est totalement souverain.
Comment expliquer dans ce cas la légèreté de certaines des conclusions de l'OMS par rapport à l'accident de Tchernobyl ? 50 morts, 4000 morts potentiels par cancer, c'est ce qui a été conclu par l'OMS ?
Alors non, pas du tout. D'abord, il n'y a aucune légèreté. Nous, on considère que le désastre de Tchernobyl est vraiment un drame terrible. Ça a affecté 6 millions de personnes. On ne parle pas des 50 mortes, on parle des 6 millions de personnes qui ont été affectées, soit d'une façon, soit de l'autre, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont été déplacés, soit parce qu'ils ont vécu sous la terreur du père des radiations potentielles pendant des années, soit par les conséquences psychologiques que ça a représenté. De l'autre côté, quand il y a eu les désastres de Tchernobyl, c'était pas le monde transparent dans lequel on vit aujourd'hui. Il a fallu attendre quelques années pour pouvoir vraiment faire une investigation comme il fallait. Quand on a pu faire cette investigation, qu'on a dit qu'il y a une souffrance énorme, il y a des potentiels cancers des thyroïdes, il y a des potentiels d'autres cancers, il y a des liquidateurs sur lesquels il faut continuer à faire d'autres études parce qu'il y a des risques qui n'ont pas tenu en compte. Mais il faut dire la vérité, c'est-à-dire il faut pas mettre l'émotion là-dedans quand on travaille sur des données scientifiques, parce que sinon on ne sera pas crédible et on va générer des paniques là où c'est pas nécessaire.
Et combien de morts effectivement pour l'OMS alors ?
Alors les morts, nous on a parlé des cas de cancer, parce qu'effectivement ça va dépendre énormément de si ces cancers peuvent être traités ou pas. Donc en fait, et vous savez, les liquidateurs, ça c'est des données. Et comme je disais, dans les temps de l'Union soviétique, et pas forcément. Donc, les numéros de morts parmi les liquidataires, les jours qui ont suivi la catastrophe, ça, malheureusement, on peut pas, on n'a pas des données. Mais on n'a jamais dit qu'il y avait eu des 50 morts. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça.
Les militants se basent en fait sur un rapport de 2005. C'est le plus récent et il figure toujours sur le site internet de l'OMS. Dans ce rapport, au deuxième paragraphe, l'OMS explique que jusqu'au premier semestre de 2005, moins d'une cinquantaine de morts pouvaient être attribuées directement à la catastrophe de Tchernobyl. 50 morts, auxquels l'Organisation mondiale de la santé ajoute 4000 morts potentielles par cancer. Le chiffre de 9000 morts potentielles a également été avancé par l'OMS. L'affirmation de ces militants, le fait que l'OMS brade sa mission de protection de la santé mondiale au profit de l'Agence de l'énergie atomique, est difficilement vérifiable. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'en vertu de ces accords de coopération, l'OMS a sous-développé le département de recherche sur les effets des radiations, laissant le champ libre aux experts de l'AIEA. Les militants de la vigie d'Hippocrate ne sont pas les seuls à pointer des dysfonctionnements de l'OMS à ce niveau-là. De plus en plus de voix s'élèvent parmi d'anciens scientifiques de l'OMS, Marianne Eira.
C'est très douloureux pour moi d'écouter ça, que ce soit des ex-scientifiques de l'OMS, mais peut-être il y a une certaine amertume, peut-être c'est évident qu'autant que scientifique, on voudrait faire toujours beaucoup plus, et autant que santé publique, on veut tous faire beaucoup plus. Et moi je trouve que c'est bien qu'on puisse challenge, un peu provoquer en disant il faut faire plus, il faut faire plus.
Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé n'ont aucun souci à se faire de ce côté-là. Les militants de la vigie d'Hippocrate continueront à les mettre au défi. Ils n'ont pas été satisfaits par les arguments de l'OMS, même s'ils reconnaissent de faibles avancées lors de leur rencontre avec le docteur Chan. Paul Rouleau sera encore là l'année prochaine pour assurer son tour de garde.
Notre efficacité, c'est dans le temps.
Pendant combien de temps vous allez encore militer? Quand est-ce que votre combat s'arrêtera?
Des années et des années.
Moi, je ne peux pas vous répondre. Hein. Ça, c'est à l'OMS qu'il faut le demander. Parce que c'est eux qui vont décider. Le jour où ils décideront de faire le boulot, on arrêtera.